Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
C'est Laurie Darmon et vous écoutez mon podcast Exil. Une chanson ouvre parfois un chemin qui la prolonge, la dépasse, la transforme en refrain intime, en partage profond. C'est ce qui s'est passé avec l'une des miennes, celle que vous entendez, qui sera le fil rouge de cette série de podcasts. Cette chanson s'appelle L'Exil. Cet exil, c'est d'abord celui de ma grand-mère, cette histoire qu'elle ne me raconte qu'à mes 25 ans et qui ne m'a plus lâchée depuis. Mais cet exil se conjugue au pluriel et devient l'exil de tous ceux qui, comme elle, ont connu les départs forcés, l'arrachement au pays, la découverte d'un ailleurs étranger. Qu'ils viennent d'Orient, d'Afrique du Nord ou d'autres régions du monde, j'ai voulu donner la parole à tous ceux qui ont grandi ailleurs, ainsi qu'à leurs enfants ou leurs petits-enfants comme moi. J'ai voulu qu'ils déroulent avec moi, avec vous, le long fil qui s'insinue partout, les amours, les voyages, les plaisirs, les chagrins, et rassemble tous ceux qui se vivront toujours exilés de quelque part, nomades, entre deux rives.
Je m'appelle Marina Foïs. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sur moi? Je suis actrice, j'habite à Paris, et je viens d'une famille qui vient de partout. Ma mère est la première française de la famille, puisqu'elle est née à Paris, mais d'un père russe qui venait de Saint-Pétersbourg, qui avait épousé ma grand-mère, juive d'Égypte. Quant à ma mère, elle a épousé mon père, qui était italien, né d'un père sarde et d'une mère allemande. C'était une famille de Salonique qui a émigré au Caire. Elle est née au Caire. Et ils ont immigré, je pense, j'ai pas les dates, mais elle avait genre 14 ans et ça devait être un peu avant les années 30, quoi. Et ils sont venus à Paris. Pendant la Seconde Guerre mondiale, ses parents à elle ont été recueillis par le Portugal qui leur a donné l'asile et la nationalité portugaise. Et elle, elle s'est cachée à Lugrin, un petit village près d'Évian. Je ne crois pas qu'il reste de la famille là-bas. C'était une famille qui s'appelait les Molo, M-O-L-H-O, donc de Salonique. Depuis le Caire, il y a une partie qui a émigré en France et une partie en Italie. Et les Italiens sont devenus Molco. Ils s'appelaient Molco. Ils ont transformé le H en K. Donc il y avait une partie, c'est comme ça que ma mère a rencontré mon père, puisque mon père était ami avec Nicky Molko, qui était de la même famille, qui était un cousin éloigné de ma grand-mère. Mais c'est les seuls, donc quelques traces en Italie, mais pas, non, en Égypte, il n'y a plus personne. Moi, j'ai un lien très fort avec l'Italie, parce que mon père était le seul à avoir émigré en France et que toute ma famille est en Italie, et que j'avais des liens très forts avec mon grand-père italien. Mais j'avoue, je n'ai pas eu de curiosité vis-à-vis de l'Allemagne non plus, alors que j'ai une grand-mère allemande. J'ai jamais été en Russie. J'ai choisi l'Italie et je dois dire que je dis assez facilement que je suis juive, même si je suis complètement laïque, totalement athée, que j'ai dû faire Shabbat deux fois dans ma vie. Mais il me semble que être juif, c'est pas quelque chose... On ne peut pas décider de ne pas être juif si on est né juif. Donc il y a un truc. Alors je sais pas bien pourquoi. Peut-être que ça a rapport avec l'histoire des juifs. Ce serait une trahison de les lâcher alors qu'ils ont toujours été persécutés. Je sais pas bien, mais ça paraît absurde et pas faisable surtout d'abandonner cette identité-là. Parce que je pense que c'est évidemment une religion, c'est aussi une culture et c'est surtout une histoire. De laquelle je ne crois pas qu'on puisse se défaire. Est-ce que ce serait la même chose si c'était une histoire qui n'était pas aussi douloureuse? C'est pas que ça, l'histoire juive, mais comme elle est aussi... Je pense que c'est la... C'est... malheureusement, c'est aussi la douleur qui fait le lien. Et voilà.
Complètement.
Mais c'est pas, évidemment, être juif, c'est pas du tout que ça. C'est aussi, y a aussi beaucoup de comment dire, de joie, d'humour, d'énergie. C'est plein de choses. Mais c'est peut-être ça qui fait le lien indéfectible. Je sais pas. Alors, je me souviens très bien quand j'ai appris que j'étais juive. Je me demande s'il n'y avait pas un peu de honte. C'est-à-dire que c'est tout d'un coup... C'est comme une révélation, ce qui paraît absurde. Et je me souviens très bien que j'en ai parlé à l'école. Et que... c'était quelque chose... J'avais l'intuition que c'était quelque chose d'important. Mais je vais même vous raconter une autre histoire. Un jour, je marchais dans la rue avec mon fils qui avait 4 ou 5 ans. Et je sais pas, on passe avenue du général de Gaulle et je sais pas pourquoi il me demande qui est le général de Gaulle. Donc, je me mets, c'est normal, il est 4 ans, il est tôt, il est temps d'apprendre l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Donc, je lui parle un peu de la résistance, de la Shoah, tout ça, je ne sais pas pourquoi. Et je lui dis, mais nous, on est juifs. Et mon fils de 4 ans me dit, non, moi, je veux pas être juif. Je lui dis, mais enfin, mais pourquoi? Il me dit, non, c'est trop chiant d'être juif. Je lui dis, mais enfin, de quoi tu parles? On n'a jamais rien fait, je t'impose rien. On mange du cochon, on fait pas Shabbat et tout. Et bien, non, j'ai pas envie, c'est chiant. Et en fait, ça m'a fait rire parce que je me suis dit, c'est comme une conscience du poids de cette chose, ouais, de cette identité. Donc, c'est drôle. Ouais, ouais. Et donc oui, je me souviens. Et je me souviens qu'à l'époque, j'ai grandi en banlieue. Donc, les multiples identités, mon père, de toute façon, je ne pouvais pas le cacher, il avait un accent italien fort. Donc, on savait qu'il était étranger. Mon grand-père russe, il venait tous les samedis en nous ramenant des blinis et des œufs de cabillaud. Donc, en fait, il y avait quand même... C'était quand même... Alors que mon grand-père russe était les immigrés de ces années-là, ultra intégrés. C'est-à-dire qu'il parlait français mieux que les Français. Et pour être très, très français, il disait pas... par exemple, s'il parlait de la rue de Washington, il disait pas Washington, il disait Vasington. Donc, il y avait une espèce de suridentité. Et lui, il était même très limite. Parce que son histoire, elle est intéressante, parce que... Donc, il est né à Saint-Pétersbourg, il s'appelait Morgoulis, famille orthodoxe, en tout cas qui se déclarait comme orthodoxe, en oubliant que sa grand-mère s'appelait Cohen. Donc, en fait, ouais, mon grand-père, c'était un juif honteux, apparemment. Et donc, ils ont fui au moment de la Révolution. Ils ont cousu les diamants dans les rideaux du train. Enfin, c'est cette immigration-là qu'a fui le communisme. Incroyable. Et lui, donc, il est arrivé en France. Il a épousé ma grand-mère juive, à qui plus tard, il l'a forcé à porter l'étoile jaune, lui ne la portant pas, en oubliant quand même cette partie de l'histoire. Et en se réjouissant plus tard, en disant à ma mère, c'est formidable, tes enfants n'ont pas le type juif.
Ah ouais, ouais. Oh là là, c'est dingue.
Ouais. Mais il y a un autre juif antisémite dans ma famille. Je ne dirais pas que mon grand-père était antisémite. Je pense qu'il était honteux ou traumatisé. Et puis, ceux qui ont vécu la guerre, ils ont été nombreux. Ma grand-mère, elle a fait baptiser ses enfants, okay, avant de se remettre à faire Shabbat. Mais c'était la peur, en fait.
Bien sûr, bien sûr.
Elle s'est mise à repratiquer sur le tard. Elle a été au Longzo. Elle a appris l'hébreu. Elle a acheté un appartement à Jérusalem. Elle s'est mise à pratiquer, ouais, mais sur le tard.
Ouais.
Mais et son fils à elle, lui aussi est un juif honteux. Et je me souviens très bien que ses filles, donc mes cousines qui sont moins juives que moi, puisqu'elles sont juives par leur père et pas par leur mère, je me souviens d'une de mes cousines me disant, parce qu'elle étudiait à Assas. Donc forcément, le monde, ça va, c'est pas trop tendu avec les fachos. Et elle m'avait fait cette réponse absurde. Tant qu'on ne sait pas que t'es juif, on te fout la paix. Ouais. Et ça, c'était il y a 30 ans. C'est quand même dingue.
Ouais,
voilà. Je suis née en 70, mes parents, c'était 68 ans. En Italie, mon père, il était d'une famille catholique, mais les Italiens de gauche étaient très anticléricaux. Donc il y avait un rejet de la religion... absolue. Ma mère ne pratiquait pas du tout. C'était quelque chose à l'époque. Les jeunes ne le savent peut-être pas, mais à l'époque, c'est récent. On se redéfinit beaucoup par notre religion. Et que moi-même, quand j'avais 20 ans, c'était quelque chose dont on ne parlait pas. Ça n'existait pas. D'ailleurs, parmi mes potes juifs, les gens ne faisaient pas Shabbat. Mmh. Maintenant, moi, j'ai même des copains qui sont peu ou pas, peu importe le degré de croyance et le degré de on fait Shabbat, comme entre tradition, plaisir et croyance, c'est quelque chose qui est revenu. Et l'identité religieuse, elle est beaucoup plus forte aujourd'hui que quand moi j'étais jeune. Je me souviens très bien en classe, en CE1, la directrice était venue en disant la question c'était genre qui n'est pas complètement français dans la classe. Et on était deux à avoir levé le doigt, il y avait une portugaise et moi. Après, ce qui est important de dire dans l'immigration de ma famille, c'est que c'est une immigration bourgeoise. Et je crois que ça change quand même beaucoup de choses. Dans la perception, dans le réseau, dans là où on arrive, dans quelles armes on a, et vers quel milieu on se tournait, dans quel milieu on est accepté. C'est pas des gens qui sont venus faire les ouvriers en France. C'est pas du tout cette histoire-là. Je pense qu'on peut subir, quand on est ouvrier, la double humiliation qui est celle d'être étranger et d'être prolo, en gros. Jusqu'à ce que le mot de français soit rapté par l'extrême droite et que ce soit une identité, en fait, qu'on nous a volé. C'est-à-dire que les Français, ce seraient eux qui défendent une certaine idée de la France. C'est envie de dire, non, en fait, ça ne t'appartient pas. Donc, il y a une envie qui revient de dire, mais moi aussi, je suis française. Je ne suis pas la même personne que toi. Je ne pense pas comme toi, mais je suis aussi française que toi. Mais ça devient un argument politique. Mais moi, la phrase qui me touche le plus et qui m'intéresse le plus, c'est celle de Salman Rushdie, qui dit « L'homme n'a pas de racines, il a des pieds ». Et moi, je rêve d'un monde où on définit les gens, où les gens peuvent se définir par les choix qu'ils ont faits, c'est-à-dire par là où ils habitent et par ce qu'ils sont, autant que par de là d'où ils viennent, en fait. Ça, ce serait une vraie avancée politique et humaine, en fait. On choisirait qui on est. C'est pas tout à fait comme ça que ça se passe. On vous renvoie sans arrêt. Alors que si en plus... physiquement vous représentez quelque chose. Moi aussi, j'ai mon identité juive ou ma juiverie, elle est particulière parce que je n'ai pas un nom juif, parce que, comme le disait mon grand-père, je n'ai pas un type juif, j'ai pas un type italien non plus. En fait, on ne sait pas bien ce que je suis, mais j'ai un physique neutre, donc qui m'ouvre des portes, en tout cas qui ne m'enferme pas. Donc je pense que le rapport à tout ça, il est aussi vachement... on n'a pas la même vie quand on s'appelle Cohen ou Foyce, c'est évident. Et on n'a pas la même vie si on est très brun, avec des yeux très noirs et une peau très mate, que si on est moyen blond comme moi, avec des yeux clairs. Ça, c'est une lapalissade. Aujourd'hui, définir son appartenance, c'est quelque chose de beaucoup plus fort. Donc, si on s'affirme autour de moi, je suis obligée moi aussi de m'affirmer ou de revendiquer quelque chose. Et oui, je revendique d'être issue de la mixité la plus totale, du bordel le plus total, et d'avoir une multiple identité qui, évidemment, je pense, en vrai, est une richesse et une liberté. Je pense que le sentiment d'être français, c'est comme le sentiment d'être amoureux ou le sentiment d'être courageux. Je veux dire, c'est une perception interne. Chacun fait... Pourquoi il faudrait... Enfin, ça devrait être une décision très personnelle. L'attachement à la France, il n'est pas un... Il y a plein de raisons d'être attaché à ce pays. On peut aussi être très attaché à Paris, parce qu'on trouve que c'est une ville incroyable, cosmopolite, bordélique, historique. Choisir d'être Toulouse. Enfin, ça devrait être un choix très personnel. Et je ne crois pas que faire société, ce soit être tous pareils. Je crois que le grand chantier serait... au-delà d'accepter les différences et ne pas avoir besoin de se reconnaître pour vivre ensemble. Je vois pas... moi, ce serait plutôt quelque chose qui m'angoisse, c'est-à-dire de vivre qu'avec mes semblables. J'aurais une impression d'ennui terrible.
Est-ce que cette notion de l'ailleurs, inscrite quelque part dans les gènes, a influencé le choix d'un métier qui ne s'exerce pas derrière un bureau, qui n'a pas vraiment de cadre.
Peut-être. Moi, ce que je sais, c'est que moi, j'ai très peur de l'enfermement. Et au premier, comme au deuxième, je suis claustro physiquement. Mmh. Mais aussi, j'ai toujours besoin. Je suis bien quelque part si je vois la porte, si la porte est dans ma ligne de mire. Et peut-être que ça, c'est quelque chose. Il y a aussi des juifs qui racontent qu'ils ont toujours une valise prête. Et que ce serait. Voilà. C'est peut-être un truc très fort. Je pense que ça existe, même si c'est pas consciemment présent. Je pense que c'est une présence beaucoup plus inconsciente. Je me souviens d'un jour où je regardais un film sur la rafle du Veldiv avec le père de mes gosses, qui lui est full goy. Mm-hmm. Et je regardais le film, bon, comme ça. Sans... Et tout d'un coup, cette pensée m'a traversée. Je me disais, mais avec cette personne qui est le père de mes enfants, on est vautré sur notre canapé. Si on était le 16 juillet 42, ben en fait, on serait chacun d'un des côtés du grillage. Je peux être qui je veux. Ça aurait été un moment où je n'aurais pas choisi. Bon, je pense que c'est... Oui, je pense que c'est quelque chose qui existe, mais je ne peux pas dire que je me sois accrochée à ça consciemment pour construire des choix, des goûts. Mais peut-être que l'espèce de précarité formelle de notre métier, peut-être que ça répond à ça, je ne sais pas. En fait, j'ai vraiment une attirance pour l'étranger, mais c'est ambivalent ce truc-là, parce que quand j'ai tourné au Brésil, je m'y suis sentie très bien, pour tout un tas de raisons, mais aussi parce que je trouvais chez les Brésiliens l'énergie du désespoir qui me rappelait l'énergie du désespoir juif. Donc en fait, on bouge pour retrouver des choses auxquelles on s'accroche. Donc c'est toujours c'est des mouvements contraires. Après, il y a quand même une différence entre l'exil forcé et l'exil choisi. Il y a quand même des gens... mon père, il a choisi de venir en France pour épouser ma mère, et c'est un choix. Je crois savoir que ma famille, quand elle a juive, quand elle a quitté le Caire pour la France, c'était un choix.
C'était en quelle année ?
Dans les années entre 20 et 30. Après, quand ils ont dû partir au Portugal pour fuir la guerre, c'est passé des exils forcés. Mon grand-père russe est un exil forcé. D'ailleurs, il en restait une nostalgie assez forte. Et aujourd'hui, ceux qui sont forcés à l'exil... peu importe pour fuir la guerre ou la pauvreté ou la misère ou la... Peu importe pourquoi ils fuient, je pense pas du tout qu'ils parlent de l'exil comme de ceux qui ont choisi d'aller vivre ailleurs. Hein. Ça me paraît évident. Moi, mes amis, ils sont ici. Donc, je m'éloignerai, mais j'irai même pas en banlieue de peur que ce soit plus compliqué d'aller dîner avec eux. Donc, ça, c'est vraiment un truc... En revanche... j'aime bien, là, j'ai passé 3 mois en Espagne, j'avais passé 2 mois au Brésil. Partir pour des longues périodes en étant immergée complètement dans un autre pays, ça me plaît énormément. Et si je peux le faire par le biais du travail, ça me plaît encore plus que par le biais du tourisme.
Donc il n'y a pas de peur du départ ?
Si, bien sûr que si. Je déteste faire mes valises. Mais c'est un truc de... Si. Il y a l'angoisse. Et à chaque fois que je pars, je pense que je ne reviendrai jamais. En tout cas, le jour, il y a toujours... Ah si, c'est très flippant. Après, j'aime bien le vertige d'être loin. Ça me fait penser des choses complètement différemment. Mais, ah si, j'ai peur, ouais. J'envoie des textos quand je pars. Mm-hmm. Je fais mes adieux. C'est vrai.
C'est fou, ça. Hum?
Mais je sais que c'est complètement irrationnel, mais je sais que c'est là.
Et l'histoire de la valise prête, potentiellement ?
Alors, moi, c'est paradoxal, parce que je n'ai pas de valise. Moi, il faut que je voie la porte. Ce qui, je pense, est la même chose que la valise, en fait. C'est l'idée de pouvoir s'enfuir, pouvoir s'échapper.
Et les origines, quand on a des enfants, du coup, c'est quelque chose qu'on transmet naturellement ? Par exemple, l'Italie.
Eux, ils sont très attachés à l'Italie. J'ai l'impression que c'est un choix... comment dire, je n'ai pas eu d'effort à faire pour qu'ils soient attachés. C'est certainement passé par mon père, qu'ils adoraient, donc, et par l'endroit, parce qu'on a une maison là-bas qui est super, et les gens qu'ils rencontrent là-bas, et le fait que c'est un milieu très différent, parce que nous, on vit à Paris-Centre, une vie pleine de moyens, très sophistiquée, très parisienne, très, très 2022. Et là-bas, ils se retrouvent dans un environnement, on est dans un tout petit port, dans le sud de l'Italie, où les gens vivent avec 900 euros par mois. Et je pense qu'ils sont séduits par la chaleur, la dolce vita qui n'est pas un mythe, qui est réelle en Italie, par comment les gens sont accueillants, joyeux, etc. Mais aussi par le fait que c'est un rapport aux choses complètement, complètement différent et peut-être que ça les ancre dans une autre réalité. Et j'adore le fait qu'ils soient aussi à l'aise ici, avec les gens qui fréquentent ou que je leur fais fréquenter, que dans les gens qu'ils rencontrent là-bas, qui bossent 6 mois par an à louer des bateaux, qui parlent napolitain et qui sont... Les jeunes générations, c'est pas vrai, mais les gens de 40 ans, ils ne sont pas sortis de chez eux, quoi. Ils sont allés à Rome et en Suisse visiter leur famille qui sont maçons en Suisse.
Ouais.
Mais c'est pas des voyageurs. D'ailleurs, mon fils me disait... oui, il a parlé avec un copain de là-bas... Non, c'est pas ça. Il a parlé l'autre jour, il y avait un copain américain et il lui expliquait que là où on était en Italie du Sud, les gens, ils n'étaient pas habitués à voir des Noirs ni des homosexuels. Donc, c'est vrai, c'est la réalité. Et donc, ils ont la perception de la différence des choses. Et moi, j'aime bien qu'ils soient capables de... Il y a une définition de l'intelligence qui dit que c'est la capacité à s'adapter. J'assiste à la France qui ouvre ses bras aux Ukrainiens dans une espèce de compassion ultime, de générosité absolue que je trouve absolument bouleversante, mais que je trouve au fond la moindre des choses. Mais je ne peux pas m'empêcher, si je me réjouis de ce mouvement-là, d'être absolument choquée du fait que l'exil n'est pas un sujet nouveau. Il y a 8 mois, c'était Kaboul, que je n'ai pas le souvenir qu'on ait dit aux Afghans, venez, on n'aura pas ouvert nos apparts, et que évidemment ça fait ressurgir une évidence que moi j'essaie d'enfouir parce qu'elle me choque, qui est qu'on vit dans un monde blanc et raciste, et que il y a une vraie hiérarchie de l'être humain qui est directement corrélée à la couleur de sa peau. Ça, c'est des sujets qui me touchent, mais qui me... Parce que je ne suis pas naïve au point de penser que si on hiérarchise un jour, je serai au top de la hiérarchie, et dans une autre situation, je serai au cul de la hiérarchie. Donc, je ne comprends pas comment... Je ne comprends pas que les gens ne comprennent pas que cet axiome-là de hiérarchiser est mauvais pour tout le monde. Je veux dire, d'abord, c'est bête. C'est bête. Et que la bêtise ne nous sauvera jamais. Voilà. Oui, ça, c'est des sujets qui m'habitent tous les jours. Mais comme je faut pas se leurrer non plus, je suis blanche et blonde, en gros. Donc, dans les films que je joue, je jouerai toujours une blanche blonde. Donc, sauf si je fais un film sur la Seconde Guerre mondiale et où je joue quelqu'un qui court, qui fuit, qui se cache, c'est une partie. Je n'aurais pas... Je jouerai pas ce truc-là du dedans. Ce que je peux jouer, qui est un autre sujet qui m'intéresse, parce que la hiérarchisation, il y en a plein. C'est le mépris social, parce qu'il y a plein de formes d'exclusion. Le sort réservé aux migrants, aux exilés, aux réfugiés, peu importe le terme qu'on emploie, est absolument abominable. C'est considérablement durci depuis l'arrivée au pouvoir de Macron. Macron qui dit lui-même dans son programme, il y a cette idée que dès que le droit d'asile vous sera refusé, vous serez renvoyé dans votre pays immédiatement, sachant que dans le même temps, ils ont durci beaucoup l'accès au droit d'asile. En fait, c'est mécanique. Dans le même temps où ils disent on va aider les Ukrainiens, et puis, sur tous ces sujets-là, il y a un manque de pédagogie de la classe politique. Et moi, j'en veux encore plus à la gauche qu'à la droite, parce que la droite, ils font leur boulot. je veux dire la gauche, sur le fait que non, la France n'est pas en danger, même si elle accueille dignement tous ceux qui sont en situation de survie. Je veux dire, il n'y a pas de... Ou alors, c'est qu'on nous cache la vérité, arrêtez de dire que la France est la cinquième puissance mondiale, dites c'est un pays very, very weak, qui est au bord de la faillite, et donc on ne peut pas accueillir une famille qui serait morte si elle était restée là où elle était. Dites-le, assumez-le, on est vraiment au bord du gouffre. Mais enfin, il y a une contradiction du discours... Et ce serait très simple d'expliquer que, par exemple, parce que ça, on le sait, quand une famille syrienne arrive dans un petit village de Lozère déserté, potentiellement, cette famille-là, voire encore plus si on en accueille deux ou trois, ça empêche la fermeture des classes, ça fait vivre la boulangerie, ça fait vivre l'économie, et ça fait vivre le pays, et que très concrètement, c'est des grèves qui marchent, en fait.
Complètement.
Oui, donc, et ça, ce serait le travail du politique de dire, attendez,
totalement.
Arrêtez d'avoir peur, soyons concrets, examinons cas par cas, et puis s'il y a une famille de terroristes en puissance, il y a une loi qui dit, vous voyez, on est comme quand même, la France est protégée et par la loi, et normalement par ses moyens financiers, d'absorber quand même cette population-là qui fournit une main-d'œuvre qui n'existe plus en France. On sait bien, là, depuis le Covid, on entend la restauration, manque de main-d'œuvre, etc. C'est des gens qui sont prêts à travailler. Donc, il faudrait, on pourrait parler de cette situation complètement autrement. La notion qui fout dans la merde, c'est un bon français ou un français intégré. C'est ces mots d'intégration qui sont dégueulasses. Moi, j'irais plus loin. Moi, par exemple, je suis contre l'interdiction du port du voile. Je ne comprends pas, en fait, le problème. Ce que je comprends, c'est encore cette idée de savoir mieux que quelqu'un ce qui lui convient. Ouais, moi, j'irais beaucoup plus loin en disant « tu verras comme tu seras tranquille ». Quand on ne sera plus agressé par la différence, mais ça, on peut élargir le truc. Hein. On entend beaucoup parler de grossophobie en ce moment. C'est pareil en fait. Pourquoi faire exister, pourquoi faire résonner si fort la différence comme un problème ou une angoisse? Il y a un truc que nous dit la nature qui est très basique. D'ailleurs, la loi interdit les mariages. Enfin, on n'est pas censé se reproduire au sein d'une même famille. Pour une raison très simple, c'est que ça fait des maladies congénitales et potentiellement mortelles. Donc cet enseignement de la nature, il est très clair. Il veut dire éloigne-toi, mélange-toi, ne te reproduis pas, ne referme pas le cercle, tu vas mourir. Il faut être basique. C'est ça que dit la nature. Donc, c'est que tu as vraiment envie de sortir dans la rue pour voir ton semblable identique et pour aller dîner avec lui qui va te raconter la même chose que tu racontes. Mais quel ennui! On va se faire chier. C'est la base, en fait.
C'est vrai.
Et on est tous en train de manger des sushis et des bobounes, et des kebabs, et des couscous, et des tagines, et des pizzas.
Ouais. Oui.
Donc, si tu me fais chier, si on avait fermé les frontières et fait des murs, t'aurais pas de tacos, t'aurais pas de pizza. Je veux dire, moi, je pense qu'il faut être aussi très, 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 très pragmatique. Et t'écouterais quoi, du clavecin? Non, mais voilà, c'est pas ça que t'écoutes. Le rap, ça vient d'où? Ça vient de qui? Bon, je pense que c'est vraiment une question d'éducation. Je me souviens d'ailleurs, en 6e ou en 5e, moi j'étais une élève, je me faisais terriblement chier à l'école, et comme je me faisais chier, j'étais insolente, mais c'était un truc, putain. Je pense que c'était un cauchemar pour les profs. Et je me souviens, il y avait une histoire des religions, c'était en 5e. Et donc on avait fait, mais je sais pas, 17 heures sur la religion catholique. Et je m'étais levée en disant, et la religion juive, alors, ça nous... Et je disais, je comprends pas. Mais en fait, moi, c'était pas tellement politique, c'était vraiment pour faire chier la prof et tout. Mais ça, c'est pareil, les manuels d'histoire, je sais pas lesquels ils sont aujourd'hui, mais je suis pas sûre que ce soit très, très updated à la société telle qu'elle est aujourd'hui. Et je pense que c'est dommage, et je pense que c'est là que ça devrait commencer. Mais je crois quand même que nos enfants sont beaucoup plus ouverts et beaucoup plus aptes à se mélanger. Évidemment, mais de même que les plus grandes recettes de cuisine, la tarte tatin, je crois que c'est une erreur. Voilà ce que je veux dire. Donc C'est intéressant de se dire ça, les accidents, les miscastes, les mariages étranges, enfin, évidemment que ça produit... ça produit des choses, ça enrichit, ça élargit, ça enrichit le monde.
Et les photos défilent sur le coin de la table. Je la surprends fragile, déverse quelques larmes. Elle se souvient de tout, les parfums, les couleurs. Le temps n'a rien dissous, juste là dans son cœur. Elle me dit les détails, l'insouciance comme un fruit qui poussait en bataille sur le sol du pays. Et soudain le silence, la déchirure immense, l'exil.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.